poser la question, savoir si Jésus était magicien, c'est le thème de notre culte en 3D ce matin. C'est poser la question de son identité. La question de l'identité de Jésus est une question qui semble être importante puisque Jésus lui-même la pose. Quand il a, après avoir vécu quelque temps avec ses disciples, il leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'on dit de lui dans la région. Pour ceux qui nous entourent, qui suis-je d'après eux? Et les disciples réfléchissent un peu et peut-être ils font un sondage express pour savoir prendre la température de l'opinion publique. Et ils lui répondent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie ou encore Jérémie ou un autre prophète. Et si Jésus pose la question de son identité, ce n'est pas pour savoir s'il est populaire ou s'il est apprécié dans la région, mais parce que le positionnement par rapport à son identité, par rapport à ce qu'il est vraiment, semble faire toute la différence. Et il va même poser la question à ses disciples, après leur avoir demandé « Que dit-on de moi dans la région ?» Il va dire « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors pour revenir aux réponses des disciples sur ce qu'on pensait de lui dans la région, tout ce qu'on peut dire, c'est que les réponses sont conformes au contexte de l'époque. À l'époque, on attendait justement Élie, Jérémie ou un prophète, un type religieux qui arriverait et qui serait capable de mettre dehors les envahisseurs romains. Et donc les réponses restent dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, les propositions sur l'identité de Jésus restent conformes au contexte d'aujourd'hui. Et nous sommes dans un contexte magique. Les livres d'Harry Potter. Enfin, ce n'est pas les livres d'Harry Potter, c'est de l'auteur de Harry Potter. Les romans d'heroic fantasy, les séries sur les vampires, les loups-garous, les fées, les jeux vidéo, plus vrais que nature, un peu par magie, les films Marvel avec les filles et les garçons, avec des super-pouvoirs, avec Hulk, Thor, Iron Man, les quatre fantastiques. On est en train de mettre au point un casque virtuel pour créer un environnement tout à fait virtuel. On n'a pas encore réussi à gérer les nausées que ça amène, mais on y arrive. Alors tout cela permet parfois de s'évader, mais ça crée un monde virtuel et quelque peu magique par un sort, par une formule, par une touche sur le clavier, par un effleurement sur la tablette, par une pression du joystick. La réalité se transforme, c'est magique. Et dans ce contexte, on peut alors se poser la question de savoir si Jésus était un magicien. Et s'il était un magicien de quel genre? Du genre Harry Houdini, le plus grand magicien du monde, début du XXe siècle, qui était le roi de l'escapologie, pas de l'escatologie, mais de l'escapologie, l'art de s'échapper de toutes les situations. Vous savez, on le mettait enchaîné avec une camisole de force au fond de l'eau et il s'en sortait. Il était aussi le roi de l'escamotage. Il a quand même fait disparaître, en 1910 ou 15, un éléphant qui était sur scène. Magnifique, Houdini. Genre Houdini ou genre David Copperfield? Magicien très élégant, très classe, très séducteur. Jésus était-il magicien? Il faut dire que Jésus brouille un petit peu les pistes quand même, parce qu'à certains moments, il pourrait passer pour un magicien. Et je suis sûr que vous avez en tête quelques événements dans la vie de Jésus, dont vous vous souvenez, et qui pourraient s'apparenter à des actes magiques. Vous avez 10 secondes pour réfléchir à 2 événements dans la vie de Jésus qui pourraient s'apparenter ou que vous trouvez un petit peu limite magie, borderline magie. 10 secondes. Moi, j'en ai trouvé 2. Dans l'évangile de Jean, ça commence très fort, à la première sortie de Jésus. On est au 2e chapitre. Il n'a pratiquement rien dit, Jésus. Il nous fait un miracle tout à fait, enfin, quelque peu magique. Il est à un mariage, la fête bat son plein, mais on apprend dans les coulisses qu'il n'y a plus de vin. Et les noces, à l'époque en particulier, mais encore aujourd'hui, sans le vin qui est là pour réjouir le cœur de tout le monde, les noces débutent mal. La fête va être gâchée. C'est comme s'il n'y avait plus de musique pour une soirée dansante. Et Jésus est un des invités, il va faire quelque chose d'étonnant. Il va transformer l'eau qui était dans les jarres, là, en vin. Et le récit nous raconte que cette eau transformée en vin, enfin le vin qui a été transformé, est meilleur que celui qui a été servi au départ. Non seulement Jésus transforme l'eau en vin, mais en plus, il le transforme ou il la transforme en bon vin. Le tour est quand même pas mal, n'est-ce pas? Deuxième événement, il marche sur l'eau. C'est quand même incroyable. Et c'est peut-être le tour de Jésus qui impressionne le plus. Moi, j'ai entendu beaucoup de blagues à ce sujet. Et c'est vrai qu'on se demande où est le truc. Est-ce qu'on est à marée basse? Non, c'est un lac. Il n'y a pas de marée. Y a-t-il des cailloux sous la surface de l'eau? Et en plus, le récit ajoute que Pierre, un des disciples, va aussi marcher sur l'eau. Alors ça, c'est vachement fort. Même Houdini ne peut pas le faire. Alors voilà le top 2, à mon sens, des actions de Jésus qui pourraient faire penser à de la magie. What else? Il y aurait d'autres choses. Mais je crois qu'il y a une différence quand même majeure avec ce qu'on appelle la magie à la Houdini ou à la Copperfield et avec ce que fait Jésus. C'est que Jésus ne me semble jamais être dans le spectaculaire. Il est dans le surnaturel, soit, mais pas dans le spectaculaire. Et les actions ne sont pas faites juste pour le plaisir de faire un tour de passe-passe, ni pour impressionner la galerie, mais pour dire quelque chose. Et quand il transforme l'eau en vin, c'est pour dire qu'avec lui, la fête de la vie peut être encore meilleure. Quand il fait marcher Pierre sur l'eau, il nous dit quelque chose sur la confiance que l'on peut avoir en lui. Et ses actions et les autres ne sont pas des tours de... Alors je dois le noter, je les note. Prestidigitation ou d'illusion, mais des signes. Des signes. Et la fonction du signe est d'indiquer, de donner la direction, de signaler qu'il y a en Jésus quelqu'un qui peut faire la différence. Non, Jésus n'était pas un magicien. Et il y a un autre événement dans la vie de Jésus qui va le démontrer assez clairement, c'est le récit de la tentation de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus s'en va dans le désert et comme il n'a pas mangé depuis quelques jours, il a faim, très faim, 40 jours quand même, il n'a pas mangé. Et il se sent certainement très faible, fragile, vulnérable. Et le diable, l'adversaire de Dieu et les hommes, l'adversaire de la relation que les hommes peuvent avoir avec Dieu et que les hommes peuvent avoir entre eux aussi, l'adversaire de toutes les relations, le destructeur de toutes les relations, le tentateur vient avec une proposition un peu étrange. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains ou que ces pierres se changent en pain. Autrement dit, utilise tes super pouvoirs, Fils de Dieu, tes pouvoirs magiques de transformation pour te tirer de cette situation désagréable pour toi. Mais Jésus va refuser la magie, va refuser le recours à la magie. Et il va répondre par une citation biblique que l'on connaît peut-être, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Mais le diable ne s'avoue pas vaincu. Et il revient avec une deuxième tentation, celle encore d'une action spectaculaire, mais un petit peu préparée artificiellement, avec des artifices. Il lui dit « Monte sur le toit du temple et jette-toi parce qu'il est promis dans la Bible que des anges viendront te protéger, amortir ta chute. » Encore un tour de magie, même s'il y a des anges impliqués, et Jésus va dire encore non. De même pour la troisième tentation, il s'agit avec une formule magique un petit peu, de recevoir tous les royaumes de la terre. Il suffit d'adorer le diable. Et Jésus refuse trois fois de passer par la magie, de verser dans le spectaculaire, trois fois de faire des effets spéciaux, alors qu'il aurait pu, parce que ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté. Jésus ne voulait pas. Jésus faisait d'autres choix. Il ne voulait pas faire des raccourcis trompeurs ou des tours de magie faciles et tapageurs. Il a autre chose en tête, Jésus, ou plutôt autre chose sur le cœur. Jésus ne veut pas être un magicien, il veut être le sauveur. Et manifestement, cette mission de sauveur, c'est sa vocation première. Et c'est pour cela qu'il est venu dans le monde, pour le sauver, pas pour mettre des coups de baguette magique de ci, de là, mais pour le sauver. Et cette volonté de refuser le magique pour être vraiment dans sa mission de sauveur, il l'aura jusqu'au bout. Quand on vient l'arrêter, un soir, à Jérusalem, à la fin de son passage sur cette terre, un de ses amis va tirer son épée pour faire la bagarre, parce qu'il y a les soldats du temple qui viennent. Mais Jésus lui demande d'arrêter et lui dit « Rengaine ton épée, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Et il ajoute, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Mais Jésus ne veut pas faire appel à ces légions d'anges. Bien sûr qu'il pourrait recourir à ces super pouvoirs qui viennent d'en haut, mais je ne veux pas le faire, j'ai une autre mission. Jésus refuse le recours à la magie parce qu'il a fait un choix. Un choix déterminant dans le sens où ce choix va changer le monde. En fait, il fait deux choix. Il fait d'abord le choix de l'humanité, de rester homme parmi les hommes. Dans quelques jours, nous fêtons Noël. Noël, au-delà du côté féerique, magique et commercial, nous fêtons le fait que Dieu est venu naître parmi nous, qu'il est venu marcher parmi nous, vivre, sentir, avoir mal parmi nous. Noël, c'est la fête de Dieu qui devient homme, l'incarnation. Et ce qui est frappant et ce qui me frappe toujours, c'est voir le contraste entre le récit de Noël dans la Bible, qui est quand même le récit d'un couple sans domicile fixe, qui est repoussé par un aubergiste, qui trouve une étable sans lumière, sans électricité, sans sage-femme, sans monitoring, sans musique d'ambiance. Et la fête de Noël qu'on nous propose, le marché de Noël qui est déjà en place, les achats, les galeries marchandes, le budget cadeau explosé, la facture énergétique doublée, on n'a rien contre la fête, que la volonté de Dieu soit faite. Mais le contraste est saisissant. Parce que Dieu, en faisant le choix de l'humanité, fait aussi le choix de l'humilité, de venir humblement et de limiter sa puissance et de marcher avec nous pour nous comprendre et nous prendre avec lui pour nous mener quelque part. Il y a l'astronaute américain James Irwin, le septième homme à marcher sur la Lune, qui a dit en 71, « Le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. » Et je me souviens, quand on a regardé à la télé, je crois que c'était en 69, le premier homme qui marche sur la Lune, j'avais 6 ans, sur notre petit écran noir et blanc, c'est lui qui a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et c'était magique, c'était féerique, c'était la science-fiction devenue réalité. Incroyable, mais James Irwin nous le dit bien, le plus important, ce ne sont pas les prouesses techniques, scientifiques, aussi magiques qu'elles puissent paraître, mais que Dieu ait choisi de devenir homme en Jésus pour montrer la voie et pour marcher avec nous. Ça, c'est du solide. Et puis, en refusant la magie, Jésus fait un autre choix qui est lié au premier, au choix de l'humanité. Il fait le choix du service de l'autre. Il fait le choix du service et le service de l'autre. La magie, c'est souvent pour toi. Pour le spectacle, les pierres transformées en pain, ça aurait été pour la consommation personnelle de Jésus. L'intervention des anges, ce serait pour sa protection personnelle rapprochée. Les royaumes aussi auraient été pour sa gloire personnelle. Mais Jésus dira dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, si je me souviens bien, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Il fait le choix délibéré du service et il va ajouter une expression qui nous laisse un peu perplexe, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus fait le choix du service, et ça jusqu'au bout, et sur la croix, justement. Quand il arrive au bout de son service, on va encore lui poser la question tentante de la magie. Et vous l'avez entendu tout à l'heure dans le récit, plusieurs vont lui dire, « Si tu es le Fils de Dieu, comme le diable !» dans Matthieu 4, 2 ans auparavant. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Descends de la croix. Un petit tour de magie. Du spectacle, que diable. Mais Jésus, il a fait le choix du service de l'autre. Du service des autres. Il a fait le choix de mon service. De ton service. Et il n'a que faire, Jésus, de se sauver lui-même. Pas un petit tour de magie. Ce n'est pas lui qu'il veut sauver, mais les autres, tous ceux autour de lui, là, sur la croix, qui ricanent, et pour lesquels il dit « pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Parce qu'il se préoccupe des autres, Jésus, du salut des autres, de leur rentrer dans le royaume. Et l'autre brigand a bien compris, d'ailleurs, ce que Jésus était venu faire sur cette croix un vendredi soir. Et parce qu'il l'a compris, Jésus lui dit « aujourd'hui, tu seras avec moi dans ce royaume ». Manifestement, Jésus n'est pas magicien mais sauveur, et on pourrait dire berger Nous avons lu le texte tout à l'heure. « Je suis le bon berger, dit Jésus, qui donne sa vie pour ses brebis. » Pas un magicien, mais un berger qui est prêt à tout risquer pour ses brebis. Un berger qui n'a aucune préoccupation, aucune autre préoccupation que la protection de son troupeau et de le mener à destination. Moi, j'ai rencontré un berger, et c'était à Laringe, et j'ai rencontré un berger qui menait ses brebis juste à la fontaine du village, au centre de Laringe. Vous le voyez, la fontaine, là. Toutes les rues étaient bloquées. Tous les 4x4 rutilants étaient à l'arrêt. Les SUV, tout aussi rutilants, à l'arrêt également. Mais le berger ne semblait pas s'en préoccuper. Pour tout dire, il s'en fichait complètement. Tout ce qui le préoccupait, c'était que ses brebis boivent. Après lui, le déluge des klaxons. Il est là pour ses brebis. Et quand il y en a une qui se perd et qui risque d'être mangée par les ours, les méchants ours des Pyrénées, il va la chercher au risque de sa vie et il est prêt à prendre d'énormes risques pour sa brebis, des risques inconsidérés. Et Jésus nous dit qu'il les connaît, que le bon berger connaît ses brebis, il les connaît chacune par leur nom et c'est pour cela qu'il est prêt à prendre des risques pour chacune d'elles, parce qu'il les connaît. Dans une région montagneuse, autre part qu'ici, un homme voit une petite fille porter son frère sur un sentier de montagne. « Hey, petite fille, ce fardeau n'est-il pas trop lourd pour toi ?» Et la petite fille de répondre « Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. » De même, quand Jésus prend une brebis sur son épaule, sur ses épaules, ce n'est pas un fardeau pour lui, c'est sa brebis. Et il est prêt à donner sa vie pour elle. Non, manifestement, Jésus ne veut pas être le magicien de nos spectacles, mais le berger de nos vies. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Roger Lemaire, entraîneur de l'équipe de France de foot, après 98. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable, mais il a quand même gagné le championnat d'Europe en l'an 2000. Et il a dit, ce beau Roger Lemaire, il a dit « J'aimerais bien rencontrer Dieu pour qu'il me dise d'où je viens et où je vais. » Et c'est vrai que, quand je me rappelle de lui, pendant les matchs de l'équipe de France, il était à côté, il n'était pas devant, il n'était pas près de ses joueurs, il était à côté de la cahute, là, il tenait son bras comme ça, et il regardait, il semblait qu'il était complètement perdu. Il me semblait qu'il regardait le vide. Et j'avais envie de lui crier, « Mais Dieu est venu à ta rencontre, Roger !» En la personne de Jésus-Christ, et il va te dire, si tu as des oreilles pour entendre, d'où tu viens et où tu pourrais aller. Comme Jésus l'a fait avec Josh Angulo, ceux qui ont fait Alpha savent que j'aime bien ce champion de windsurf des années 90, qui savait très bien où il allait, lui, alors qu'il était au sommet de sa gloire du windsurf dans le tour mondial, alors qu'il était au sommet de la vague, au sommet de son art. Josh savait où il allait, et il l'écrit, « J'allais dans le mur ». Drogue, violence, dépendance, l'argent facile, la colère contre les autres et contre soi, parce qu'on leur fait du mal aux personnes que l'on aime, et qui rencontre Jésus alors qu'il est au creux de la vague. Il rencontre Jésus, le bon berger, qui le mène, dit-il, vers des eaux paisibles. Alors, il s'est calmé, Josh, mais pas par magie, par la présence dans sa vie du berger, qu'il aimait tel qu'il était, mais qui s'est donné pour qu'il puisse changer. Je termine en donnant quelques pistes de réflexion ou d'action qui sont juste des suggestions pour notre route vers Noël. Pour ceux qui sont déjà chrétiens parmi nous, je me demandais s'il ne faudrait pas imiter Jésus en refusant d'avoir recours à la magie. C'est-à-dire en refusant d'utiliser les raccourcis dans notre vie pour aller plus vite à des résultats. Parce que on veut parfois tout et tout de suite, et on risque de tomber dans le n'importe comment. Comme Jésus, il nous faudrait résister à la magie du résultat immédiat. Il nous faudrait peut-être imiter Jésus quand il fait le choix délibéré de vivre dans l'obéissance à Dieu, avec ce que la Bible appelle la persévérance, l'endurance, la patience. Un peu comme le disait la chanson du départ. Pas à coups de baguette magique, mais petit à petit, par des choix répétés. La vie chrétienne ne se fait pas à coups de baguette magique. Il y a bien sûr ce qu'on appelle aussi dans le parcours alpha des clins d'œil de Dieu, sur la route, sur le chemin, parfois de gros clins d'œil. Et peut-être que votre présence ce matin est un clin d'œil de Dieu. Mais la vie chrétienne se vit dans l'ordinaire de la vie, avec des gens ordinaires et des circonstances ordinaires. Et c'est là que Dieu se tient, dans l'ordinaire de nos vies et dans notre quotidien. Ne soyons pas tentés par des raccourcis spectaculaires et prometteurs, mais qui laissent bien souvent sur sa faim. Deuxièmement, pour ceux qui ne sont peut-être pas encore chrétiens, cette suggestion serait de recevoir Jésus dans sa vie, non pas comme un magicien, mais comme un sauveur. Bien sûr, il peut toujours transformer la piquette de nos fêtes en grand cru. Il peut, s'il le veut, vous faire marcher sur l'eau, multiplier les petits pains de votre thermomix. Mais on ne l'invite pas pour cela. Ce qu'il va faire, c'est vous transformer de l'intérieur en vous donnant une nouvelle identité, l'identité de la brebis qu'il porte sur ses épaules et pour laquelle il montre qu'elle a de la valeur. Il l'aime, il va la mener à destination et il donne à cette brebis un avenir, de l'espérance ou une raison d'être. Et je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui disait « L'être humain ne peut pas vivre sans raison d'être. » Et on ne peut pas vivre sans raison de vivre. Et Jésus donne les deux, des raisons d'être pour être, des raisons de vivre pour vivre. Mais il faut un moment ouvrir la porte. On a parlé dans ces deux cultes en 3D de novembre et décembre de cette recherche de Jésus, comme si on mettait ce nom Jésus dans un moteur de recherche. Et on a vu en novembre qu'il était un ami, pas comme les autres, mais un ami vraiment exceptionnel, dont l'amitié peut changer les choses. On vient de voir qu'il n'était pas un magicien, mais un sauveur berger. Et ce n'est pas juste une discussion que l'on peut avoir comme sur Napoléon ou Gandhi. À un moment, il faut répondre nous-mêmes à cette question, et vous, qui dites-vous que je suis ? Et même mettre le singulier, et toi, qui dis-tu que je suis ? Et à l'approche de Noël, cette question prend tout son sens, ou on va dire toute son actualité, votre actualité, mon actualité. Il y a quelques années, nous étions à Bruxelles, et justement en décembre avant Noël, et il neigeait sur la grande avenue, l'avenue de Tervuren. Et ça bouchonnait un peu, on n'y voyait pas grand-chose. Et tout à coup, une ambulance a surgi derrière nous. On n'avait pas le choix. On devait se garer. Certains choisissaient la droite, d'autres choisissaient la gauche. Et certains y allaient tout de suite, quand ils la voyaient de loin. Certains, on ne sait pas pourquoi, attendaient que le SAMU soit vraiment derrière eux, que ses phares les éblouissent, que les sirènes les assourdissent pour se garer. Mais tôt ou tard, tout le monde devait se ranger, soit à gauche, soit à droite. Et cette question, c'est l'identité de Jésus. Et toi, qui dis-tu que je suis ? Il faut se prononcer là-dessus, soit à droite, soit à gauche. Jésus ne nous laisse pas d'autre choix. Amis ou pas, sauveur ou non. Il faut se prononcer, chers amis. On ne peut pas rester simplement spectateur.